Ouais. Je voulais juste savoir si, parce qu'on a prévu de faire la traduction en français avec David, mais peut-être que on a un petit comité, peut-être que tout le monde est bilingue, je ne sais pas.
Non, ça me dérange pas.
Qu'est-ce que vous préférez? Ce que vous préférez avec une traduction en français, si vous avez besoin d'une traduction en français. Faut juste, voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, les deux sont possibles.
C'est pas mal.
C'est mieux, hein, on est d'accord, mais ouais.
Bon, moi ça me, okay. Ça me va. Mais alors après, moi je suis pas interprète professionnel, donc je compte aussi sur toi pour compléter. À deux, on va s'en sortir.
Enfin, bingo,
on va deviner
les mots.
Ok. Donc, bah, merci d'être venu à la rencontre de ce soir au mot à la bouche pour ce Roland de River Solomon.
So thank you so much for attending this book lunch, this meeting that will be about So Roland by River Solomon.
That's me.
Yes. C'est moi.
Who's been translated by Francis Gabremont?
Traduit par Francis Gabremont. Là, on vient
d'inverser
en
fait.
Sorry.
La
performance.
Oui,
c'est...
oui là.
On va se concentrer sur des questions dans un premier temps, et si vous, vous avez des questions sur cet ouvrage ou le travail de River Solomon, ensuite il y aura un temps de discussion évidemment, qui sera ouvert à tout le monde.
At first, I will ask you some questions, Rivers, and then we will turn to the audience, and we have time to discuss with the audience and listen to your questions, the questions of the audience.
Alors je vais en français, je vais le faire en anglais. Bonjour Rivers.
Hi Rivers.
Tout à fait ravi de vous recevoir au mot à la bouche aujourd'hui pour parler de So Roland et de votre travail en général.
Thank you so much for coming here. We'll discuss So Roland, but all your work also.
Et j'avais une petite question pour commencer. En anglais, vos pronoms d'usage sont fée, fair. Est-ce que en français, c'est traduisible par fée, fell, pour ajouter le L qui est souvent dans le possessif français. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce choix de pronoms qu'à titre personnel, je trouve absolument brillant.
Ok. So, usually in English, your pronouns are fée, fair. Do you want it to be translated into French? Technically, I do think that your pick of pronouns is excellent.
It is.
Yes, it is. Oui, bon choix, est excellent. Mon choix de pronoms est excellent.
Yeah.
So the question is, do you think Faye and Frey can be translated into French? It's a terrible question. It's a good question, I mean, but it's a difficult question.
J'avais une proposition.
I mean, everything to do with language is sort of within its sort of cultural context, so I guess it can't be fully translated into French, but I think the point of the pronouns that I use is to stand in opposition of the assumptions that we have about what words belong to which people. Fae and fair, I feel like, has an ethereal, inhuman sound to it, and that's why I use them in English. So I don't know which pronouns or invented pronouns in French would convey that. But also, I'm pretty flexible, so whatever sort of gender-neutral pronoun is in French, I would be happy to use. Like, yes. I think last time I was here, someone told me it was ill. Is that right?
Yes.
Yes.
Oui, alors la traduction, c'est toujours l'effet du contexte culturel. Donc, bien sûr, une traduction, c'est toujours quelque chose d'impossible. Et ces termes, ces pronoms que j'ai choisis, ils peuvent effectivement être difficiles à traduire, mais ils ont une qualité un peu éthérée, un peu d'une certaine façon inhumaine, que je trouve remarquable. Et donc, tout ce que vous pourriez trouver en français qui peut rendre ces qualités, qui permet de sortir de certaines cases, me semblerait judicieux. Je suis assez flexible sur ces questions-là. Une fois, on m'a dit qu'un pronom français qui est neutre, d'un genre neutre qu'on peut utiliser, c'est « yel », ça peut m'aller, mais la discussion est ouverte.
Merci. Voilà, moi j'avais la preuve. En effet, fée, fell, c'est, ça renvoie à la féerie en français, donc on peut essayer. Mais...
So we're going to try to stick your, to your English pronoun, because they arc back to fairy, fairy tales, and so we are, they're great.
Alors, we're gonna, pardon.
On peut faire comme ça, hein, c'est peut-être, tu fais tout en anglais, moi je fais tout en français derrière.
Si tu préfères quoi?
De toute façon, je vais souffrir.
Non, on va pas te faire souffrir trop. Sorry about that.
Non, non.
Alors, Soroland est votre troisième roman, après L'incivilité des fantômes, que j'ai ici en poche. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, qui était le premier, et Les Abysses, qui était le second, et donc Soroland, qui est le troisième. Il nous raconte l'histoire de Verne et de ses jumeaux, Farouche et Hurlant, qui sont tout d'abord, quand on les rencontre, déjà Ness pour les jumeaux, et en fuite pour Verne, d'une communauté séparatiste noire aux États-Unis, où a grandi Verne et où elle a été mariée, quand même plutôt de force, à un pasteur. Just a pitch.
Well, I will make it short because it's basically Soroland is your third novel. You probably know that. it comes after being kindness of ghosts and the deep. When the novel starts, we meet Verne and two infants and. Verne was married, had been married by force, had been coerced into marriage.
Okay.
Into, and that's it. Simply the setting.
Yeah,
okay.
Just the setting. Et c'est un roman qui va traiter de nombreux sujets. On va pas pouvoir tous les aborder dans la. Enfin, j'espère que.
It's a novel with many many topics. We will not be able to talk about all the topics tonight.
Mais tout en mélangeant des questions de minorité, d'individualité, politique et intime, on reste bien dans une histoire avec une narration qui est entre du roman gothique, de la science-fiction et aussi malgré tout de l'amour et un roman de formation.
Okay, so it's a superb novel. There are many 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 topics for like individual topics, sociological topics, society topics, yes, but first of all it's a narrative that is part gothic novel and also science fiction.
Et il se compose de trois parties, je voulais commencer par là. Les trois parties sont Plantae, Fungi et Animalia, qui sont trois des sept grands embranchements du vivant, des règnes du vivant. Et je voulais savoir si ces trois parties préexistaient à l'écriture, comme un module opératoire, ou si c'était venu au fur et à mesure de l'écriture comme une façon de différencier les trois étapes du récit.
Ok, so the novel is divided in three parts. The three parts are three branches of the natural realm, and was this a narrative device that you designed before starting to write, or did it shape itself during the course of writing?
No, it's something that existed at least from the first part of the book, so maybe not before I started writing, but certainly once I was sort of through the beginning, I knew that I wanted to structure it in this way. And I'm very, very interested in taxonomy and the way that we use these sort of categories to define ourselves. And I think historically, taxonomy has been quite problematic in some ways. It's been absolutely unscientific and not actually evidence-based, the way that we sort of we've categorized sort of creatures together. You know, based on how they look or something like that. And now it's sort of much more common to categorize things based on their common ancestry. Anyway, sorry, that was a tangent. We have all of these sort of taxonomic categories within our own lives, so gender and race, And ways that we sort of sort people into our stop. Do you want to?
Okay. Non, ce dispositif narratif, il est certes pas antérieur à l'écriture, mais il est arrivé assez vite, dès que j'ai commencé en fait à me lancer un peu dans l'écriture. Et c'est lié au fait que j'ai longtemps été obsédé avec la taxinomie, discipline ou pratique qui consiste à classer les choses, qui est une pratique qui est très trompeuse parce que elle est présentée comme étant scientifique, mais quand on se penche sur la taxinomie, on se rend compte que les catégories sont rarement établies par des preuves, mais reflètent souvent d'autres choses. Et par exemple, on a l'habitude de classer les choses en termes de genre, de race et...
Okay. Continue. Yeah. I know I have to get back there.
Taxonomy. Yes. Gender.
Yes.
Race.
Yes. And so I knew that I wanted to structure the novel in a way that sort of calls attention to these categories, and I think that what my hope is for the idea is that Verne herself, the protagonist, is moving through these different sort of kingdom. So mm-hmm. we have, you know, and I think I do I recall, I feel like I structured Unkindness similarly, where I talk about like different categories. It's been a while, so I don't remember, but
translate that. Thermodynamics.
Okay. en fait, I was so obsessed with what you said. Welcome to After Hour. Non, en fait, c'était important pour moi que mon personnage traverse ces étapes, mais en y réfléchissant, je pense que c'est pas la première fois que j'utilise ce dispositif narratif, parce que si je me souviens, même si ça fait un peu longtemps, c'était déjà le dispositif narratif de l'incivilité des fantômes.
Ouais. Et en effet, c'était thermodynamique, métallurgie et phylogénie.
Yes. Yeah, so playing with these ideas of different sort of scientific categories as well. But yes, yeah, so sort of Verne starts out in the woods, so we have, you know, plants. But I think it's also something where we can play with the idea of, okay, what does it mean to be plant? Usually it means to be rooted or... the way that we interact, one would interact with the world as a plant versus how you would interact with the world as a fungus, in which you're feeding off of the dead, and, you know, spreading your spores that way, versus how we as animals live and how we interact with the world as all of these different things. And I think there are parts of us in each of those categories, and Verne moves through them. So yeah, I wanted to call attention to that.
Mm-hmm.
En fait, Verne, au début de l'histoire, elle est en forêt, et c'est l'occasion aussi de se demander comment fonctionne un végétal. Un végétal, une de ses premières caractéristiques, on peut dire que c'est quelque chose qui a des racines. On peut se demander comment le végétal se diffuse en envoyant parfois ses pollens, pollinise voilà, le monde. Si vous êtes un champignon, par exemple, vous vous nourrissez, vous absorbez les choses, le reste du monde. Et d'une certaine façon, en fait, toutes ces différentes catégories, ben, en fait, on trouve une trace ou une part de nous dans chacune de ces catégories. C'est pour ça que je voulais que Verne traverse ça.
Mmh. Ça recoupe des questions que j'avais en tête, notamment sur la question de... En fait, dans le roman, on apprend au fur et à mesure que, je vous spoil légèrement, mais c'est quelque chose qu'on comprend très vite, que Verne a une question d'hybridation, son corps, qui déjà diffère de la norme, puisqu'elle est albinos, dans une communauté noire, est en plus, au fur et à mesure, hybridée. Et cependant, pour plein de raisons, Verne est hors norme, et elle ne souhaite pas... avoir d'étiquette sur ce qu'elle est. Car, et je cite le livre, elle dit « quand quelque chose a un nom, on peut dire que c'est mauvais ». Et également, ça signifie que l'on a disséqué, que l'on a expérimenté, et que l'on a probablement fait du mal à des personnes ou des choses qui sont comme moi. Et je me demandais si dans cette hybridation, il y avait, et ce refus de catégorie, il y avait aussi une farouche volonté d'autodétermination et donc de libération et de célébration de ce qui est vu comme une différence.
Okay, so I'm going to spoil a bit the novel to the public, but we discover quite quickly that Verne is a kind of hybrid and
a kind of what?
Hybrid.
Ah.
Hybrid. And it's not only the fact that technically she's an hybrid, but also she considers that she refuses all form of labels or names, and because if you name something, you hurt it, you can kill it, because to be able to create a category, you have, at one point you have hurt the thing, but because you have cut it, dissected it, and so he's Verne actually a perfect example of form of self-liberation, because she refuses to be named.
The idea is that she really does not want any label, because she, in my opinion, she seems to be self-determined, and she absolutely want this in her kind of liberation from all the pressure that she's got for being so like seen as different in many ways.
Yes, I think Verne has a very anarchic energy to her, resists all things, and labels is one of those things, and categorizations is one of those things. And it's because as soon as we call something by a name, and I'm not against labels and names that we come up with for ourselves, but most of the times, or very often, labels are imposed and given to us, and it can be quite a colonial project to name and say and to map something and to approach it in this way, sometimes you can be a sort of a victim of your name, and sort of what an oppressor's ideas about you becomes all that you are and what you are, and language, even, you know, sort of, you think about semiotics and you think about language itself, you know, as soon as you sort of give an idea a word, it sort of becomes immediately condensed and loses nuance and a shorthand, and it makes sense, we need it so that we can communicate with one another, sort of the idea and vast sort of picture I have of something in my head is then squished down into one small word and sort of transmitted to you and evokes something that's going to be different than what's in my head. So is that easy to translate?
It's long.
Thank you all for your patience.
Non, chez Verne, il y a une sorte de, c'est un esprit qui a une sorte de puissance anarchique. Elle est un peu en butte contre tout. Elle est capable de résister à tout, et notamment à cette action de nommer. En soi, je ne suis pas contre la possibilité qu'on puisse, pour se définir soi-même, avoir des étiquettes ou des catégorisations ou des noms, mais il faut bien reconnaître que très souvent, ces noms, ces catégorisations, ce ne sont pas les nôtres. Ils dénotent un projet de colonisation, en fait, qui est souvent la colonisation d'une forme d'oppresseur qui peut nous dominer. Et donc ça, c'est un premier problème. Après, l'autre problème relève de la sémiotique, de la linguistique, c'est que souvent, on a une idée qui peut être fine, vaste dans notre esprit de ce que l'on est, mais qu'on a besoin pour la communication entre les personnes de le réduire à un seul mot, et on perd à ce moment-là de la puissance, de la nuance et une forme de vérité.
Does that answer? It doesn't really answer your question, but
it did answer one of my questions, which was about the labels. So
okay.
That's good.
Ça a répondu à ma question. Merci beaucoup.
Pardon, vraiment du ping-pong. Donc dans ce roman, donc comme je l'ai dit, il y a des questions par rapport aux minorités. Il y a Verne, il y a également ses enfants, et il y a Gogo et Bridget, que j'adore, et qui sont, elles, de la tribu Dakota, donc des personnes autochtones d'Amérique du Nord, et en l'occurrence, c'est expliqué au début du livre de la région qu'on appelle aujourd'hui le Texas. On parle aussi dans ce livre de personnes qui sont malheureusement décédées du VIH pendant les années 90, si j'ai bonne mémoire. On parle de personnes qui sont hors normes de genre, de sexualité. Et tout ceci s'entremêle dans le récit. Je voulais savoir... alors, je retrouve ma question exactement. Je pense que tu peux traduire juste la question, parce que tu pourrais
rester dans cette offre. Ok, one of the many topics of the book are... Ah, pardon, tu l'as retrouvé ? Ok, vas-y.
Je voulais juste savoir si les sujets... qui touche ici, qui parle de communauté et d'individus, et qui nous parle, nous, dans cette librairie, en tant que telle. À quel moment, pour ce Roland, ces interconnexions s'étaient réalisées entre ces différentes questions liées aux minorités ?
Ok. So one of the many, many topics of the book, of this novel, are minorities. So we will meet characters from belong to First Nations. We will meet people who died from AIDS in the 90s. We will also meet people that are completely out of the box and out of all possible labels. When in your writing did you reach a point of connection between all these minorities? Because here in this specific bookstore, it is a topic of discussion we tackle very often.
I think very early on, writing this book, I came up with the title Sorrowland, and I think I specifically talk about this reference in the book, the idea of the US as this kind of demented, sad theme park. But anyway, just in the title Sorrowland, I'm thinking about the land and a place of who all has lived in this land, who has died on this land, what sort of abuses that we've suffered unite us, and all of it, I think, is a result of sort of this project of normalization, trying to create a sort of a standard human. And so, and any time that you create something like that, there are going to be people who are outside of it and not within it. And I think. So that was it. It started with the idea of the title itself and the land itself, and that that we sort of occupying that space and are sort of in this all together. And even when you think about any space, all of us in this room sort of inhabiting this space together, our different backgrounds and, you know, whatever sort of baggage that we have and whatever brought us here, we're sharing this literal space. And so where do we find points of connection? And even a fungus is so important in this book, and so thinking about fungus and sort of the way that we spread tendrils of care and connection.
Tout d'abord, il faut voir que j'ai trouvé très très vite le titre de ce roman, Sorrowland. Alors, un petit aparté, c'est la note de l'éditeur, c'est pas de Rivers. C'est que l'usage est quand même qu'on traduise en français les titres. C'était très 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 compliqué de traduire sans perdre beaucoup d'aspects. Et comme c'était très percutant, on a décidé de garder Sorrowland. Le sorrow, c'est la souffrance, le chagrin, la peine. Donc, je reviens à ce que disait Rivers. Donc j'ai d'abord trouvé le titre, pour moi d'une certaine façon, mais je pense que je l'ai déjà dit, l'Amérique c'est une forme de grand parc d'attractions déprimant, rempli de douleurs et de regrets, et en fait c'est un projet, l'Amérique, et il me semblait important de raisonner à partir de la terre, du pays, vraiment au sens le plus matériel, et de penser aux gens qui ont vécu dessus, qui ont souffert dessus, et à partir de ce moment-là, de raisonner sur ça. Et en fait, d'une certaine façon, nous, dans cette librairie, on est des personnes qui arrivons avec des origines, des souffrances passées parfois très très différentes les unes des autres, mais il y a une sorte de connexion qui se crée, et donc c'est toujours ça, c'est-à-dire partir d'un espace qui est limitée et comment ça crée une connexion entre des individus.
Merci David pour l'introduction. il me reste vraiment plus beaucoup de questions préparées, donc après ce sera plus tout
Get
ensemble.
Get ready with your questions, dear audience. Ah.
Gogo, dans l'histoire, donc rencontre Verne, qui est Dakota, lit beaucoup de théories liées à ses activités, ses engagements et à sa pensée militante et de personnes, en fait, tout simplement. Verne, elle, a des problèmes pour lire, notamment du fait de son albinisme et de la façon dont personne ne l'a aidé avec ça dans sa construction. Quand on la rencontre dans le roman, elle a quand même 15 ans. Mais il y a un fil rouge dans ce livre pour Verne et au moment de sa rencontre avec Gogo également, c'est la lecture de La Chambre de Giovanni, de James Baldwin, qui lui a été lue par Lucy, sa première amoureuse en fait et meilleure amie dans l'endroit où elles ont
merci
les enfants de Caïn où elles ont été élevées. La question de la mémoire qu'on abordera juste après est très présente dans vos romans, mais là avec La Chambre de Giovanni on n'a pas seulement la mémoire mais la transmission d'impossible puisque Verne, avec La Chambre de Giovanni, elle et Lucie savent qu'elles peuvent être noires et homosexuelles. Et que ce n'est pas quelque chose qui serait créé par les Blancs comme on leur apprend dans la communauté, dans le pays de Caïn. Elle le lit ensuite avec Gogo. Et je me demandais si superposer les enjeux de mémoire, de transmission, avec notamment la littérature, c'était aussi une façon vivante, féconde et heureuse de faire vivre cette mémoire. Et s'il y avait, de cette façon, des œuvres qui font le terreau, en fait, de ce roman.
One of the characters was a member of the First Nations, reads a book, and Verne is not such a good reader, and this book is Chauvinism. The question, what we see when we read this part of the book is that the reading is a way to show the characters something that is possible, that is not, that was not built by the white man.
Mm-hmm.
It has a kind of meta effect on us. What would be the artworks, novels, or the cultural artifacts in general that create the land of possibilities of Sauerland? Which artifact did Sauerland come from?
I can add a bit if you want. It was about transmission and the fact that when you have a cultural ground that nourishes you, and sometimes you don't know that it exists, and when you discover it exists, as in Japanese room for Verne and Lucy, it's more about transmission than memory.
Yes.
And it's bringing joy when you discover that you're in fact not only in a memory but in a long line and transmission. And I was wondering, what and in which lines or transmissions and roots do you put Sauerland?
That's a great question.
Fantastic question, merci.
I think quite simply, a lot of the texts that I reference in the book are works that, you know, inspired or that I consider Sauerland in conversation with or part of the lineage of. And one of, I think specifically the poem, The Negro Speaks of Rivers, which I do think I reference, which is a Langston Hughes poem. I don't know if it made it in. I never know what actually made it into the final version, but.
I kind of think it's late.
No, is it not?
I don't think so.
Oh, okay, well, all right, then that's good because I have an answer that's not in the book, so. Langston Hughes, my favorite poet, And it's the how I chose my name, Rivers, and this idea of rivers being carrying all of this life with it, and how it can shape and change the land. And there's all of this metaphor within water and within rivers. In this poem, sort of, he talks about, you know, I think the first line is, I've known rivers. And, you know, I've known rivers here and I've known rivers there and these different places. And all of those are kind of inside of me. Mm-hmm. And I think about that because that's sort of very literal also for Vern, who has all of this memory in her of all of these things that happen, all of these places that she has access to and live with inside of us. And I think that I have that and we all have that to various degrees, a sort of lineage that we carry that's a source of power. So that poem, definitely. And I think quite a lot of a sort of not fictional texts, but like sort of theoretical texts, especially sort of Deleuze. And a lot of it, and I think this is what was so fun about writing about this book is I very much intentionally, because this was the first time I've written a book where it was like, it takes place in contemporary times, I can reference the real world for once in a way that I have not been able to do in the past. I was like, I'm just gonna, you know, write about the things that I talk about with my friends. And, you know, because, you know, in real life we read books, and so why shouldn't the characters read books as well and talk about them? I don't know if that really answers the question, but yeah, good. All right, sorry. Oh my god.
No.
Je pense
que... faire en intelligence collective.
Non, on va le faire en intelligence collective. Mais what I will do at one point is that I will type what you said, and I will share it in translate it in French. Donc en fait, je pense. Alors j'ai d'abord pensé à un poème, et je pensais qu'il était peut-être dans son langue, mais finalement, je crois qu'il a été coupé au montage, qui est en fait. Un de mes poèmes favoris, je vous donnerai la référence précisément parce que c'est un poème, je m'en souviens plus, enfin je m'en souviens plus de toute façon. Ce poème commence par j'ai connu des rivières, c'est une traduction approximative en français, et c'est le poème qui a inspiré mon nom parce que j'aime cette image des rivières qui en fait forment et transforment la terre, the land. Dans ce roman sur Hollande, il y a quelque chose de très particulier qui le distingue de mes précédents romans, c'est que comme c'est la première fois que j'écris un roman qui se passe dans le monde contemporain, les personnages peuvent être exposés ou discutés d'œuvres que moi aussi j'ai lues, dont j'ai pu parler avec mes amis, qui me marquent. Donc d'une certaine façon, parmi les choses que j'aimerais transmettre et qui ont influencé l'écriture de ce texte, il y a beaucoup de textes de non-fiction qui apparaissent dans la discussion que je peux avoir avec mes amis sur les sujets de notre époque.
Dont Deleuze.
Dont Deleuze, oui. Dont Deleuze, bien sûr. Voilà.
Derrida qui citait également.
J'ai eu un problème avec les noms propres. Ouais. C'était.
Et dans le livre, en fait, Gogol lit beaucoup de théories et Verne, à un moment, lui a une sorte de petit complexe d'infériorité, mais Verne est très très têtu. Donc en fait, elle lui signale que, bon, quand même, elle est intelligente, mais si elle lit pas toute sa théorie. Et ça fait partie, en fait, de la force de leur relation, c'est que Gogol lui dit, bah oui, bien sûr, enfin, il n'y a pas de. Il y a une sorte de discussion qui se crée et pas d'altercation, alors que toutes les deux sont quand même des sacrés caractères.
The two of your characters are really strong-willed, and at one point one of them feel kind of shy or angered by the fact that the other one is better read, better, and the other one says, but no, it's not a question of power, it's a question of discussion. It's how we start a conversation.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les trois livres, en fait.
And it's a common topic among your three novels.
Qu'il y a la question de la charge, de la mémoire, parce qu'il y a trois personnages qui vont, en fait, se retrouver à prendre sur elle, sans l'avoir choisi, la question d'une mémoire collective. Et les éléments qui se créent dans le livre sont celles de la répartition de cette tâche et du bonheur qu'on peut avoir à faire ensemble quelque chose plutôt que de le subir seul. Mais pour ça, il faut réussir à... Bah, pour les trois personnages, hein, que ce soit Aster... comment elle s'appelle déjà dans les abysses, je l'ai noté. Yetu, ouais. Yetu et River. River, pardon. Sorry. et Verne. J'ai juste lu le premier truc que je voyais. Toutes les trois vont devoir apprendre à ne pas se sentir crouler sous le poids de la mémoire, mais réussir à s'ouvrir. C'est ce qui se passe. Enfin, je trouvais que c'était un parallèle. Intéressant, et s'il y avait des choses à dire dessus, j'étais ravie d'écouter.
So I have a comment, and feel free, a remark, and feel free to comment on this remark. It's not actually a question.
Okay.
All your three characters, main characters in your three novels, have not chosen, but have been chosen to be the vector of a memory. And so it's a kind of a heavy burden.
Yes.
And in your three novels, at every time, there's a point when where the main character must find a way to discuss with the others so that they do not stay alone in their terrible task to be a vector of memory.
Yes.
Would you care to comment?
Yes. yes. I think, and I've spoke about this a bit earlier today in a different interview, this is a bit different, but it's related, and so I want to talk a bit more about it. Is that the idea of carrying trauma is something that's inherently very isolating. It's often something that happens in secret, or what happened was so awful that it cuts you off from the rest of humanity, or there is also this sense of you went something and you went through something and no one saved you from it, and it can really sort of cut you off and isolate you. And I think all of my characters have gone through something similar. And so I think a concern of mine is how do we sort of, and because so many of us are traumatized, we live in a world where we're forced to endure so much violence, and society itself, I think, is fairly traumatizing for many people. So given all of this, we all feel kind of isolated from one another. And so how do we sort of, get over that gap that gets built between us, and how do we understand that isolation, even though it feels very real and like we're alone in what we've been through, that it's actually something that connects us.
Oui, en fait, mes romans, je crois, abordent souvent ce sujet de comment on porte un traumatisme qu'on a subi, sachant qu'un traumatisme, c'est quelque chose de très solitaire, c'est-à-dire c'est nous tout seuls qui l'avons subi, c'est moi tout seul qui ai subi un traumatisme. Puis il y a une deuxième forme d'isolation qui est provoquée par le traumatisme, c'est le fait de... parfois on se demande si les autres auraient pu nous aider, en fait ils nous ont pas aidés, donc on peut créer en fait une deuxième distance avec les autres. Et c'est vrai qu'on est dans une société de traumatisés d'une certaine façon, parce que c'est une société traumatisante, et mon idée, c'est de voir comment on peut sortir de cette isolation en créant une forme de collectif, et ce collectif vient du fait qu'on a cette caractéristique commune de traumatisme personnel, même s'ils sont différents les uns des autres.
Sorry.
I had one last small question about an aspect of the book. Ah oui,
une
pardon.
Dernière petite question.
Voilà. Again. Du coup, ouais, okay. Okay, for this last one, I'm going to do it in English.
Okay.
It seems that what I wanted to do, I don't know. The book, like, by the fact that Verne is a hybrid, is often very close to body horror. And the book is, like, intertwined in many genres, which is something I really loved.
Oui, c'est une question où il y a donc un personnage d'hybride. Et donc, il y a des éléments qui relèvent de, du body horror ou de l'horreur corporelle.
But nonetheless, the book never goes truly to body horror because Verne is always reminded that she's love. And she's grounded in this kind of care and love. And I was wondering if this kind of like grounded love is something that can, in your idea and in this book and maybe in life, I mean it's not a therapy book, but is something that how do you say that? I mean, not as cheesy as it can sound, but like love can be an answer to the horror we have as a burden in our bodies.
Mm-hmm.
Alors, même si il y a donc des éléments qui sont horrifiques dans le texte, et parfois on a l'impression que le texte prend la direction de l'horreur horrifique, on contourne finalement toujours ça, parce que le personnage de Verne, c'est un personnage qui est aimé, et donc, même si je sais que ce roman n'est pas un roman de thérapie, est-ce que dans votre œuvre, dans ce roman, dans vos œuvres en général, ou même dans la vie, vous considérez que l'amour, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui permet de surmonter ce type de des traumatismes.
And more precisely, if in celebrating what makes us unique, even if it can be seen as abnormal, is a way of like not only being happy but being grounded. And I'm thinking about like especially the a few very queer scenes. And with you know which ones that are amazing. Like, I mean, I've never read that before in this kind of setup.
C'est pas juste que l'amour nous donne l'impression d'être aimé, mais l'amour nous enracine d'une certaine façon. Je pense à certains trucs un peu queer que je vais pas détailler ici, mais j'ai trouvé ça remarquable. Voilà. Et vous savez de quoi je parle.
Yeah, and it's not because it's shy, it's just not to spoil.
Yes, yes.
But yeah, do you want to comment about this?
Because... Yes. I think one of the main things that I wanted to say, let me make it sound so simple, this is the message I wanted to get across, but something that's really important to me is that the sort of liberatory power of queer love and intimacy and networks and bonds of care and all of these sort of communities of care that have arisen despite state neglect and larger sort of social neglect by society, that how we care for each other and, you know, as queer people, and I think there's a lot of intersection with queerness and disability, specifically like with the AIDS crisis, for example, which I try to touch on a little bit in the book. But yes, so yes, I do think, you know, there is something loving and powerful and something to be run that we should run towards, this idea of how we care for each other's bodies and love each other's bodies and respect each other's bodies. And I think because I think ultimately, you know, we have our consciousness, but you know, we pretty much solely exist as bodies. This is how we experience the world, and this is how we live in the world. This is how we do that, and so we have to care for the body. This is our vessel for all of our experiences. So, and Verne has been through so much pain, and yet I think there are parts of the book where I hope that you see the sort of the beauty of, you know, when we connect. That sounds so weirdly like euphemistic. But yes, yeah.
But there is different types of connection.
Yes, exactly. Yes.
En fait, quelque chose auquel je tiens beaucoup, et je ne veux pas dire que c'est le message, parce que j'aime pas trop l'idée qu'il y a un message qui soit explicite, mais mon idée, c'est cette attention dans le fait qu'il y a des communautés qui ont été exclues en fait de la vie collective et qui recréent une sorte de vie entre elles où ce qui est important, c'est le soin qu'on a, le care qu'on a pour les autres, comment on prend soin les uns des autres et notamment comment on prend soin du corps, comment chacun prend soin du corps, mais prend soin du corps des autres, parce qu'après tout, fondamentalement, c'est par le corps qu'on existe au monde, qu'on agit, qu'on touche les autres, voilà. Donc en fait, j'espère que dans la lecture de ce roman, il y a des moments où on arrive à sentir ça, que en fait une voie vers le bonheur, c'est ce moment où en fait, et c'est un euphémisme, on arrive à connecter au corps de l'autre.
I think it's a good time to open questions for everyone. Je pense que si vous avez des questions, que ce soit sur ce Roland ou sur les livres précédents ou sur la discussion qui est en cours, bah voilà, allez-y.
Si vous avez des corrections sur les erreurs de traduction, oui. Je suis preneur, ou des trucs que j'ai coupé au montage par accident.
No, I have a question because I've read Sauron. Donc moi je l'ai déjà lu. And I've read Sauron and I'm currently reading Stephen Graham Jones.
You're reading different.
Wait. I'm currently reading. Read it. This one.
Ah, yes. Yeah. Ah, Stephen Graham Jones, yes.
Yeah. And I'm also a fan of, as Eva know, I'm a fan of animation and manga. And just when I finished Toroland, I felt the urge to rewatch Neon Genesis Evangelion. Because there was this connection, this transformation in the books. And I think Toroland is much more optimistic than Neon Genesis Evangelion, there's this part of religion, that transformation of being more than what you are born into,
yes,
and to go above your programmation somewhat.
Tu peux reposer ta question en français
pour que je puisse
So it gives. She will ask the question in French so that it gives time to think about the answer.
So, and I wanted to know for you to talk a bit more about transformation.
Yes.
Donc, je répète en français. Donc, moi, j'ai déjà lu sur Roland et je suis en train de lire un livre d'horreur écrit par un écrivain de Première Nation. Où justement, il y a aussi une fille qui gère avec ses traumatismes sur avec des slashers. Et j'adore ce qui est animation et compagnie. Et juste après avoir lu sur Roland, la première chose que j'ai voulu faire, c'est revoir Neon Genesis Evangelion, parce qu'il y a toute une histoire autour de la religion dans sur Roland et dans Neon Genesis Evangelion, de la transformation et de la façon dont les personnages sortent de leur programmation et deviennent quelque chose d'autre. Et en fait, je voudrais un peu qu'elle nous parle de l'importance de la transformation dans son œuvre.
Yes. So I think there's actually a line in Sauroland, and in it Vern is talking specifically about gender, and she's talking about how it was as if the people there were set like a record, and there's a track that you have to follow, and that's what you're limited to. So there is this idea of, and I think all of us are on various tracks, and we choose sometimes to follow the track, and sometimes there's tension between the track and this thing that we feel inside of us. And what do we do when we feel that tension? Some of us stay on the track, but I think some of us leave the track, and we do transform ourselves and transform our lives. And there's immense power in walking away from the track and leaving that prescribed sort of destiny that society wants us to have, that capitalism wants us to have, of who we have to be and how we have to approach things and do things. And I think once you realize once you realize that you can leave the track, the whole world kind of explodes and opens up, and you know, what can I do? The whole, who can I be? I can be anything. I can do what I want, and I can be what I want, and I am powerful. And I think that's kind of the transformation, that as soon as Vern leaves the place where she grew up in the book, she realizes that I'm no longer forced on this track, so who can I become? And she's going through this physical transformation that's largely out of her control, but it's also, she's stepping towards self-liberation as well, and wondering who she can be and how she can affect the world.
Pour revenir sur la question de la transformation, il y a une image que j'emploie dans Soulland, qu'on emploie un des personnages, comme un disque vinyle. Dans un disque vinyle, il y a des sillons, et que très souvent on est tenté de rester dans notre sillon, mais on peut avoir la possibilité, parce qu'on sent une tension entre différents sillons qui nous traverseraient, de sortir du sillon, et en fait sortir du sillon, sortir de ce déterminisme qui peut être un déterminisme imposé par la société ou un déterminisme imposé par le capitalisme, ça a une puissance de libération fantastique. Par exemple, Vern, effectivement, à partir du moment où elle sort de la petite société, du culte, de la secte où elle était, elle découvre cette puissance de libération, et c'est quelque chose qui une puissance de formation, alors de transformation. Alors effectivement, la transformation corporelle qu'elle traverse, c'est une transformation corporelle qui lui a été d'une certaine façon imposée, mais il y a quand même quelque chose qu'elle s'approprie et qui est une forme de puissance et de bonheur.
Ça me semble très correct. Est-ce qu'il y a des... Enfin, allez-y, hein, si vous avez d'autres... Ouais, si vous avez des remarques, ouais.
Je me demandais le nom, genre je n'ai pas encore le Soulland, et je me demandais pour le nom du personnage principal, Vern. C'est un nom qui, nous en français, est très connoté. Est-ce que ce choix a été fait sur la sonorité du mot ou sur une signification qu'il porterait par ailleurs?
Ok, so I haven't read the novel. Mm-hmm. I'm going to. But in French, Vern has a specific meaning. How did you come up with the? Is it just the sound of it, or does it have a deeper meaning?
Most of the names of my characters I choose because of an aesthetic quality. I like the way they sound, or the way they feel. I think Vern has a kind of, at least in English, it has an old-fashioned sound to it. But also it's very sort of short and utilitarian. And I think that sort of, she has a kind of a brutal nature. I don't know if that's quite the right word, but and I felt like it sort of fit with that.
Généralement, dans tous mes romans, tous mes textes, je choisis le nom des personnages d'abord pour la qualité esthétique de ces noms, à la fois effectivement la sonorité, mais parfois vraiment ce qu'on ressent en les prononçant. Dans le nom de Vern, il y a certes quelque chose qui fait que ça sonne comme un prénom d'antan, mais il y a aussi le fait que c'est très concis. Ça se dit rapidement, c'est d'un bloc, et d'une certaine façon ça reflète ce qu'est le personnage, quelque chose, enfin un aspect du personnage, c'est-à-dire que c'est un nom qui a une dimension quasi utilitaire, enfin pragmatique, utilitariste, ça reflète la nature brute, voire brutale, voire brute de Vern.
Yeah. Thank you. Yes. You can also.
Sorry, I interrupted.
I was going to say you should also feel free to ask questions just about me or anything that you want to talk about.
Vous pouvez poser des questions sur le sujet que vous voulez, pas juste les romans, mais sur moi ou sur n'importe quoi.
Ma question, ce serait de savoir sur quoi elle aimerait écrire maintenant. What would you like to
write next?
Ah, yes, yes. Well, there's the book that I'm currently writing that's due to my publisher on July 1st that I should want to be writing. and I do want to write it. And it's a haunted house story, which I'm very excited about. I am excited about it theoretically. Writing it is, you know, life has its demands. So, yeah.
Alors, en fait, le livre que le texte que je suis en train d'écrire et que je dois remettre à mon éditeur le 1er juillet, en fait, c'est un livre qui m'excite d'un point de vue théorique, donc je suis pas du tout inquiète, mais c'est juste parfois l'écrire c'est un peu difficile. C'est un récit de maison hantée. Donc oui, ça m'excite beaucoup, mais là j'ai un peu du mal à m'y mettre parce que voilà, il y a des exigences et des contingences matérielles diverses qui fait que j'y suis pas complètement, mais ça va venir.
I've already read Unkindness of the Best, but I was wondering if there's special relationship between your person, your character, mm-hmm. and the space as a geographic sense.
Mm. Yes.
I would like to hear you.
Yes.
Alors j'ai lu le roman L'incivilité des fantômes et j'aimerais que vous nous en disiez plus sur le lien entre mon personnage et l'espace.
Yes. So something that's a really important part of my experience and how I make sense of my experience is that of being very unrooted and isolated from homeland, sort of this is being in the United States where I'm from, being a kind of uncitizen there, and having sort of my history and ancestry robbed from me via the transatlantic crossing from Africa to Turtle Island. And so I wanted to capture this feeling of being unrooted and not having a land and hence space and you know, this sense of disconnection. But there's also something that it's quite ironic is even though you're quite unrooted in space, the vessel itself, you're also, everyone is forced into quite tight connection with one another just by sheer practicality of living so close together. And the sort of the geography of that as well is something I'm starting to think about. And this kind of, I'm thinking about how that relates to kind of these cultures and communities we create and these sort of, when we're unrooted, or isolated from mainstream society, we also sort of have to bond together in these ways.
En fait, un des sujets qui m'intéresse, c'est aussi d'écrire à partir de mon expérience personnelle, qui est une expérience de beaucoup de personnes sur le sol américain, d'être des personnes qui sont en fait déracinées, au sens où elles ont été arrachées au pays de leurs ancêtres par la traite esclavagiste. Donc l'espace, c'est une manière de figurer, de donner forme à ce déracinement. Mais il y a aussi le fait que quand un certain nombre de personnes se retrouvent ainsi déracinées, isolées, en fait, elles se retrouvent à former d'une certaine façon une forme de communauté qui est liée. Et d'ailleurs, l'image même d'un vaisseau spatial avec un espace qui est un peu qui est très resserré et qui contient peu de choses, peu de personnes. C'est un modèle en fait de potentiellement une communauté de déracinés qui crée un lien entre eux.
I also want to say, I think land is very important, and it was a specific choice to make Asta, the protagonist of An Unkindness of Ghosts, a botanist basically, and she works with plants. And I was thinking about, there's actually this trend within science fiction to write about botanists. So I was thinking about, well, in a less highbrow sphere, there's Hikaru Sulu in Star Trek, who's a botanist. There's like even, you know, or what's it with Matt Damon? The Martian. He's a botanist, right? So there's this idea that at the end we can't really, even far away, and we cannot get away from the idea of the land and the land nourishing us.
Alors oui, c'est ce qui m'intéresse toujours, c'est cette la notion de terre avec un petit T de sol, de toutes les traductions du mot land en fait, parce que en fait dans la science-fiction il y aurait sans doute quelque chose à faire sur le fait que dans beaucoup de récits de science-fiction, par exemple dans L'incivilité des fantômes, le personnage principal est un botaniste, mais il y aurait sans doute quelque chose à faire sur le fait qu'on a toujours du mal comme ça à s'éloigner de la Terre. Mais il y a aussi des exemples de la Terre avec un petit T, mais par exemple le personnage de Sulu dans Star Trek est un botaniste, et le personnage de Matt Damon dans le film Seul sur Mars est un botaniste aussi. Et l'idée, c'est que vraiment, même si on s'éloigne et qu'on va dans un environnement qui est lointain, hostile, et voilà, on revient toujours à cette idée de la terre comme une forme d'origine.
Well done. Well done.
Thank you. You have to know that land is one of the most difficult words to translate.
Oh, is it?
Yes, because it's both a physical context and also a legal meaning. But it works
I'm
perfectly
sure
in English.
Yeah.
J'ai l'impression que dans Sorland, comme dans d'autres de vos livres, les personnages ont une approche différente chacun du militantisme. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vous, votre militantisme? J'ai l'impression que Sorland parle finalement presque de convergence des luttes au vu de tous les thèmes qui sont abordés. Mm-hmm. Donc j'aurais aimé entendre vous, quel serait votre militantisme et qu'est-ce que vous pensez justement de la convergence des luttes, tout autant sur tout ce qui est question d'antiracisme, toutes les questions queer.
I have the feeling that in all your novels, your characters, a side of them is a form of activism, and they could be described as activists. And I would love to know more about yourself as an activist, and specifically because I have the feeling that in Sorland, there's a kind of new layer when are you talking about the fact that different struggles can, or different political agenda, it's not the proper description, cause can, comment on dit convergence des luttes en anglais déjà?
I understand.
Okay. So, do you care to comment?
Yes, I mean, part of it is kind of the novel itself, you know, when you're have a protagonist, you know, there's kind of an expectation that they do something active and change the world. So in many ways, I think that's sort of me falling into that structure of, you know, writing a hero or a heroine, and what that means. But yes, I mean, I consider myself I don't know that I would call myself an activist, but I consider myself someone who wants and tries to fight for justice in all the ways that I can. And I come from a family who does that as well. And I want to show that that's not some sort of strange thing. Like, it's just a normal, to fight for what is right and true is a normal way to live life. It doesn't have to be an extraordinary thing. And yes, I mean, Sorrowland, and I struggled a lot with writing Sorrowland and specifically talking about sort of indigenous issues, because, you know, I'm not indigenous myself, and you know, probably I did research, but I'm not as at home in these issues as I am writing about black stuff or queer stuff or disability stuff. But I firmly believe that, you know, none of us are free until all of us are free. And so our struggles are absolutely tied together. And it's important to try to give voice to those things.
Oui, alors effectivement, dans, on peut décrire d'une certaine façon mes personnages comme étant des militants, des militantes. Et d'une certaine façon, c'est aussi pour moi façon de me projeter dans ces héros, ces héroïnes qui ont une cause et qui avancent dans cette cause et qui sont des militants, militantes. Moi-même, je me vois pas, peut-être pas, je me définirais pas comme une militante, mais j'essaye dans ma vie, dans mes romans, d'être une personne qui se bat pour la justice notamment. J'ai la chance de venir d'une famille où c'est comme ça qu'on fait. Ce qu'il y a aussi, c'est que fondamentalement, je crois que on peut pas être libre tout seul ou toute seule dans son coin. Il n'y a de liberté que collective, et donc il faut se battre, voilà, et que c'est une forme de vie. My translation was short. I'm not as eloquent as your text, but as your what you said. But
I'm sure it was great.
Yeah, sure.
Thank you for translating for me.
S'il n'y a pas d'autres questions en particulier, ce que je vous propose, c'est de se mettre plus en mode dédicace, c'est-à-dire on se met debout, on a le livre et on peut discuter un peu tous ensemble ou séparément, chacun son tour. Voilà, si c'est ok pour tout le monde. On peut passer à ce module plus tranquille et moins intimidant si on a des questions.
So we're going to move to book signing time. Mm-hmm. And
et merci.
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 Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.